Voilà, bonjour à chacun et chacune. C'est une joie pour moi d'être là dans cette nouvelle belle salle de votre assemblée, de votre église. C'est vrai que j'avais dit à David que je me réjouissais de voir cette nouvelle salle de la Frate. Alors voilà, c'est le cas ce matin. Je vous félicite, c'est beau, c'est épuré, c'est classe. Mais je vais vous emmener ce matin voir quelque chose d'encore plus beau. Je ne sais pas si c'est plus épuré, mais en tout cas, c'est une réalité autre qui échappe un peu à nos catégories de pensée, à notre logique humaine. Et je vais essayer de vous emmener à la découverte de cette nouvelle création, future nouvelle création, nouvelle Jérusalem, qui est décrite dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse 21. Et voilà, j'aimerais vous emmener là à la découverte de la Jérusalem nouvelle. Vous savez, mes amis, on est ici sur la terre dans une réalité où il y a beaucoup de mal. Sur la terre, dans notre création actuelle, il y a de la pollution, des larmes, du sang, la destruction, la guerre. Notre création est souillée, notre création est marquée par la folie de l'homme. Notre création est marquée parce que le prince de ce monde, c'est Satan, l'ennemi. Et Dieu, un jour, dira stop. Et le Seigneur, un jour, dira, voici, vous avez été incapable de faire quelque chose de bien de ce que je vous avais donné, ma création. Et de mes mains sortira la nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, comme il est dit souvent dans l'Apocalypse. Pour vous donner un reflet de cet ancien monde, de cette réalité ancienne, j'ai pensé à ce passage de l'Évangile où l'on voit Jésus qui s'approche de la fin de son ministère et de sa mort, et qui s'approche de la ville. La ville, c'est Jérusalem, c'est la Jérusalem du temps de Jésus. Et que fait Jésus? Il pleure sur cette ville. Et il est triste de ce que la paix, la vraie paix, le shalom, ne viendra pas comme ça dans sa ville de Jérusalem, dans la cité sainte. Et voici un reflet de ce que je vous disais tout à l'heure. Dans cet ancien monde, dans notre monde, dans la Jérusalem d'hier et d'aujourd'hui, il y a de la destruction. Parce que, voilà, les gens de ce monde, les Juifs du temps de Jésus, n'ont pas reconnu le temps de la visitation. Donc on voit qu'il y a des pleurs, il y a de la destruction, il y a de la tristesse. Notre monde est marqué par la folie des humains, je l'ai dit. Nous en venons à un nouveau monde, et c'est ce que Dieu nous promet dans sa parole. Et au fond, il faut vous enlever vos illusions. Nous ne verrons pas toujours ce que nous voyons maintenant. Tout ne se résume pas à ici et maintenant. Un jour, il n'y aura plus de mondial de foot. Un jour, il n'y aura plus ce mal, mais aussi des belles choses qui sont sur cette planète et sur cette terre, tout sera transformé. Il y aura une réalité nouvelle, on la trouve dans Apocalypse 21, sous un langage très symbolique, c'est un langage très suggestif. Si vous prenez à la lettre, avec notre logique aujourd'hui, de maintenant, ce que vous lisez dans Apocalypse 21, vous n'y comprendrez rien. C'est un langage fortement symbolique, apocalyptique. C'était un style de l'époque qui nous parle de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pareille comme une mariée, une épouse qui s'est faite belle pour son époux. Donc il y a, voilà, vous vous rappelez, Babel, la tour de Babel, aux origines, construite par les hommes pour monter vers Dieu, vers le ciel, pour atteindre le ciel. Ici, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui descend avec la nouvelle réalité vers le monde et vers les hommes. J'entendis une voix forte qui disait « Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Il essuiera toute larme. » Voilà, le pendant de Jésus pleura sur la ville. Là, les larmes sont essuyées. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Des réalités du monde nouveau. Alors un jour, tout sera nouveau, et en faisant très vite, bien sûr, parce que j'ai peu de temps, je vous le montre à l'aide de deux images, de deux photos. Voilà notre ancien monde, un peu noir, sombre, parfois bien triste. Et puis, voici cette réalité de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, que Dieu va donner. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Là, les hommes n'y seront pour rien. Dieu donnera cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle réalité pour prendre le relais de notre monde qui a fait et qui aura fait faillite. Ce sont des images qui sont ce qu'elles sont, mais ça nous met quelque chose en tête et dans le cœur. Alors on peut se poser la question, à quoi va ressembler le royaume ? Si on prend le début du chapitre 21 d'Apocalypse, le dernier chapitre de la Révélation, eh bien, on tombe sur ces réalités qui sont importantes à connaître. Et j'en suis venu à la conviction que le royaume de Dieu, c'est égal à cette nouvelle Jérusalem. Si vous voulez connaître quelque chose du royaume qui vient, qui est annoncé, du règne de Dieu, eh bien, il vous faut relire ce chapitre 21 et vous saurez mieux à quoi vous attendre. Donc, c'est vraiment ce chapitre 21, ça déborde jusqu'au verset 5 du chapitre 22 et on nous raconte là la disparition du vieux monde. Je le répète, même que je suis un optimiste et quelqu'un qui a bien de l'espérance, et même que je suis heureux de vivre ici et maintenant, et de prendre soin de la création d'aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, ne vous faites aucune illusion, ce monde disparaîtra un jour. Au profit de cette Jérusalem nouvelle, qui est comparée à une épouse, l'épouse du Christ, l'Église du Christ. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on a un langage très imagé, chargé de symboles, et au fond, il y a des réalités qui se superposent. Le royaume, ce n'est pas seulement un endroit, ce n'est pas seulement une ville, cette ville qui va être décrite un peu plus loin, c'est aussi un peuple. C'est le peuple des croyants. Alors, je passe en revue quelques versets. Le verset 1, on nous dit « La mer n'est plus ». Oh, à l'approche des vacances et de l'été, on est beaucoup à se réjouir de partir à la mer. Mais en fait, quand les Hébreux disent « la mer n'est plus », c'est un monde qui incarnait les menaces. Les Hébreux ne sont pas un peuple marin, et ils avaient peur de la mer. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de menaces dans cette nouvelle réalité. Verset 4, « Plus rien ne troublera la joie des rachetés, la joie ». Ici, on a des joies sur la terre. On a des joies, mais c'est des joies passagères. Moi, j'ai eu une grande joie hier quand Roger Federer est redevenu numéro un mondial en gagnant sa demi-finale à Stuttgart. Voilà, mais c'est une petite joie passagère. Ça fait du bien, mais ça passe. Et puis, tout à coup, voilà, on apprend une catastrophe. On se dit, ah oui, on revient à la réalité. Oui, c'est un monde difficile. L'ancien monde, notre ancienne réalité, est marquée par ce slogan, vous l'entendez souvent, « Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil hein ». L'Ecclésiaste le disait il y a longtemps, et puis on l'entend encore, « Il il y a des catastrophes, il y a des, vous voyez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, alors, l'antithèse de cela, c'est voici, je fais toutes choses nouvelles. On peut se réjouir. Un verset très important, 22, verset 7, celui qui vaincra, le vainqueur, et l'Apocalypse parle souvent de ce vainqueur, héritera de cela. On ne peut pas mériter, acheter le royaume ou notre entrée dans ce royaume. On hérite, on recevra. Celui qui vaincra héritera. C'est un autre qui a accompli l'œuvre. On sera mis au bénéfice de cette entrée dans ce nouveau monde, ce monde voulu par Dieu. Il y a un avertissement sérieux. Comme au football, il y a des avertissements quant aux lâches, aux abominables, aux meurtriers, aux sorciers, à tous les menteurs. Donc, pourquoi les menteurs? Pourquoi ça revient aussi beaucoup, l'étang de feu qui est réservé aux menteurs? Bien parce que ce sont ceux qui suivent le père du mensonge. Et le père du mensonge, on sait bien que c'est l'ennemi, c'est le diable. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, vraiment, il y a un choix à faire. Voulons-nous suivre le père du mensonge, Mammon, le prince de ce monde, ou bien voulons-nous faire confiance à l'agneau? Et je vous rappelle que dans l'Apocalypse, l'agneau, c'est le nom propre de Jésus-Christ. Chaque fois que nous lisons l'agneau, il s'agit de Jésus. Et au fond, on voit dans ce verset que plus rien de ce qui est du diable n'a sa place dans ce nouveau monde, dans ce royaume. Alors enfin, la Nouvelle Jérusalem. Dès le verset 9 du chapitre 21. L'un des sept anges, et on le voyait bien sur le slide de présentation de ce dimanche, un ange qui est là avec Jean, et puis qui montre au visionnaire de l'Apocalypse, à celui qui a ses visions, qui va les transcrire dans ce dernier livre biblique, il lui montre ses réalités. Et ses réalités, elles dépassent tellement Jean, qui doit les décrire, que parfois il est emprunté, et voilà, il fait avec ce qu'il peut. Et cet ange lui adresse la parole et lui dit « Viens ». « Je te montrerai l'épouse. » Alors, il me transporta et me montra. Donc, « Viens, je te montrerai l'épouse. » Et qu'est-ce qu'il lui montre? Qu'est-ce qu'il voit, Jean? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait, venant de Dieu, remplie de la gloire de Dieu. Il s'attend à voir une femme, il voit une ville. C'est plein de contre-pieds comme ça dans l'Apocalypse. Et au fond, là, on a une très belle antithèse. Si vous relisez le chapitre 18 de l'Apocalypse, on a le vieux monde, notre monde qui s'écroule, Babylone. On a des fumées et des pleurs et des cris à Babylone. Babylone qui s'effondre, notre réseau mondial qui va à volo. Et puis un contraste, alors, la gloire et la paix à Jérusalem. Et aux surprises, mes amis, ce n'est pas un jardin que nous avons sous les yeux, mais une ville. La Nouvelle Jérusalem, une ville. Et c'est assez étonnant. Parce que c'est vrai que la ville, elle est très souvent dans la Bible le lieu de la révolte contre Dieu. Les hommes des villes font leur monde et ça leur monte à la tête, ils ont l'impression d'être puissants et il y a bien souvent des révoltés et des gens qui font leur politique sans s'occuper de Dieu dans les villes. Juste en passant, la première ville créée par Caïn, elle a le nom de Hénoch. Je ne sais pas si vous saviez ça ici, j'aurais dû vous poser la question avant de mettre... qu'on pense aussi à Babel, la ville de Babel, hein, qui était une façon pour les hommes de vouloir monter Dieu, se faire Dieu eux-mêmes. Jéricho, la ville de Jéricho qui sera détruite. Ninive, la ville des gens qui vivaient sans foi ni loi, qui faisaient n'importe quoi. Rome, la cité impériale qui va persécuter les chrétiens, qui va exercer une puissance. Les empereurs de Rome prendront la place de Jésus-Christ Seigneur. Et c'est pour ça que les chrétiens vont résister. Pour nous, le Seigneur, c'est Christ, c'est Jésus, et non pas César. Quel paradoxe que cette nouvelle réalité, ce nouveau monde, soit sous la forme d'une ville. Alors, je vous ai mis à l'écran comme ça ce texte. « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Vous voyez, l'épouse de l'agneau, c'est bizarre ça aussi, hein, l'épouse de l'agneau, c'est l'épouse du Christ. « Il me transporte en esprit et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait. » Elle rayonnait de la gloire de Dieu, cette ville. Ça, c'est un premier constat. Il y a un éclat spécial. Il y a la gloire, mais pas la gloriole humaine, pas la gloire de ceux qui vont être champions du monde de football dans quelques semaines, pas des gloires éphémères, pas la célébrité, la gloire de Dieu. Et cette ville, ce royaume sera totalement investi de la présence de Dieu. Et puis là, Jean, le visionnaire, va se fendre d'une description fantastique de cette ville. Alors vous pouvez voir, elle est entourée d'une grande muraille, 12 portes. À ces portes, il y a 12 anges. Des noms y sont inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Vous voyez bien la prépondérance de ce chiffre, de ce nombre 12. 12, c'est 3 fois 4. 3, c'est le chiffre de Dieu, la Trinité. 4, c'est le chiffre du monde, de l'homme. Il y a une union Dieu-homme qui fait 12. 12, c'est bien sûr aussi le nombre des tribus d'Israël. C'est le nombre des apôtres, des disciples de Jésus. Voilà, c'est un nombre aussi éminemment fort. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms de 12 apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, les disciples du Christ. Celui qui me parlait, donc l'ange, avait pour mesure un roseau pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Très intéressant, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva, je l'ai transcrit un chiffre d'aujourd'hui, 2200 km². Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. En fait, cette ville, c'est un tétragone. Si vous voulez vous représenter ça géométriquement parlant, tétragonos, c'est le mot qu'on trouve en grec là, dans ce passage. C'est un tétragone énorme, immense, et c'est des mesures vraiment fantastiques, fantasmagoriques. Il n'y a aucune ville qui n'a jamais ressemblé à ça. Il mesure aussi la muraille, parce que c'est une ville qui est entourée d'une muraille. Une ville sérieuse de l'époque, elle devait avoir des murailles. Du temps de Jean et tout, il n'y avait pas de ville sans défense. Il trouva 144 coudées, 144, tiens, c'est 12 fois 12, environ 70 mètres. Alors on ne sait pas si c'est 70 mètres de haut ou 70 mètres de large pour des murailles. Selon la mesure d'homme qu'envoyait l'ange. Vous voyez, ça c'est un langage qui est très suggestif. On doit se représenter un peu les choses. Alors, détaillons un tout petit peu les mesures et les dimensions de la cité pour essayer de vous représenter les dimensions du royaume. Parce qu'on dit souvent, mais est-ce qu'il y aura la place pour tout le monde ? Est-ce qu'on ne sera pas trop serré ? Est-ce que ça jouera le royaume ? Alors, voilà, cette cité, elle est mesurée par un ange qui communique à Jean, et c'est actualisé par nous. Je vais très vite, parce que le temps passe. J'ai dit que c'était un tétragone de 12 000 stades, donc 2200 kilomètres, On a cette omniprésence du chiffre, du nombre 12. 12 c'est 3 fois, enfin 144, c'est 3 fois 4 fois 10 puissance 3, hein, qui donne une idée de la grande perfection. Pourquoi il y a des murailles? C'est bizarre ça. Une ville, royaume, voilà, il y a des murailles. Eh bien, parce que ça veut donner une idée de la sécurité qu'il y aura. Il y aura une sécurité totale. Et puis une sainteté. Tout le monde n'entrera pas là. C'est pour ça qu'il y a cette image des murailles. 70 mètres de haut, c'est pas mal, hein? Et c'est bien sûr en lien, ces 144 coudées, avec les 144 000 rachetés. Ça veut dire quoi? C'est 12 fois 12 fois 1000. C'est l'ensemble de ceux qui doivent être hérités du royaume. L'ensemble des croyants, de tous les temps. C'est pas, vous voyez, c'est pas 139 999 plus 1. C'est un chiffre symbolique. Ça montre la totalité, la globalité des croyants, de ceux qui hériteront le salut. C'est une valeur symbolique, j'insiste beaucoup. Et ce qui m'a aidé, moi, à comprendre ce rapprochement entre une cité et un peuple, c'est d'imaginer que cette cité, elle n'est pas faite avec des briques, mais elle est faite d'hommes et de femmes. Les croyants de tous les temps, rachetés par le sang de Christ. À chaque porte, on dit qu'il y a un ange. L'ange, ben, il est là pour faire un peu le checkpoint, hein, accès garanti, mais on voit aussi accès interdit. Rien de souillé, d'impur n'entrera, rien de ce qui est du mensonge et du malin de l'ancien monde n'entrera là dans cette cité. Alors, la ville, je vais passer vite. Pourquoi la ville? Eh bien, ici, c'est un lieu de réconciliation. Pourquoi peut-on dire, mais est-ce une ville qui nous attend? Oh, moi, j'aurais bien préféré que ce soit une belle plage, genre plage d'Hawaï, sable blanc avec des cocotiers. Il parle plutôt d'une ville. Au fond, c'est comme si Dieu disait, vos villes, à vous les humains, ça a toujours été des catastrophes. Vous avez essayé de faire quelque chose de bien, mais dans la ville, c'est pollué, il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Dans certaines villes, on ne peut pas sortir le soir. Enfin, voilà, c'est les mégapoles d'aujourd'hui. Quand vous voyez la pollution, si vous devez vivre à Shanghai ou bien suivant où dans les villes, ils ne voient même plus le soleil tellement c'est sombre, c'est noir, c'est pollué, etc. Et c'est comme si Dieu disait, je vais vous en faire venir, moi, une spéciale. Qui sera sécurisée, qui sera belle, qui sera pure, irriguée, lumineuse. Si Dieu avait fait venir un jardin, ben il aurait fait comme à l'origine, vous vous rappelez, Genèse, Dieu donne aux hommes un jardin. Voilà, c'est pour vous, vous le garderez, vous le cultiverez. La vision des origines, c'est un jardin que Dieu offre aux hommes comme création. S'il avait fait ça, il n'aurait pas tenu compte de nous. Une ville, pourquoi ? Eh bien, Dieu va dans le sens des hommes, mais il y met sa patte. Il y met sa main. Ce sera une ville spéciale. Et au fond, on a cette antithèse entre la Babylone, qui est le reflet de notre monde actuel, Babylone périmée, ruinée, dévolue à l'argent. L'argent mène le monde aujourd'hui. Et puis, il y a une nouvelle Jérusalem qui sera sainte, qui sera lumineuse, qui n'aura plus aucune pollution. Et bien sûr, ce sont des descriptions aux métaphores éblouissantes. Ce qui domine, c'est l'éclat, c'est la gloire divine. Et c'est le paradoxe, parce que de nouveau, Jean, il n'est pas un paradoxe près. Il dit qu'il y aura des remparts extraordinaires, des murailles, puis en même temps que les portes seront ouvertes. Allez comprendre. Les remparts, c'est signe, il y aura sécurité là. Vous serez en sécurité. Il n'y aura plus d'inquiétude. Et puis, porte ouverte, ça veut dire qu'il y aura la liberté. Il y aura, voilà, on pourra respirer. On ne sera pas prisonnier, on ne sera pas dans un goulag. Résumons. Dieu sera omniprésent dans cette nouvelle création, dans la ville, qui est aussi le peuple. Dieu sera avec les hommes. On l'a dit, 12 portes, 12 anges qui veillent et 12 noms. 12 noms, Israël, les 12 tribus, les 12 apôtres aussi, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Ces portes, comment sont-elles, si vous relisez cette description? Elles sont, on nous dit que c'est comme des perles, magnifiques, étincelantes, et puis au verset 25, on nous dit que ce sont des portes ouvertes. Le nombre de fois qu'on trouve le chiffre 12 montre que la totalité des élus y aura sa place. Cette ville, on l'a décrit avec 12 pierres précieuses aussi. C'est une description que vous trouvez au verset 19 et 20. C'est magnifique. Jean a utilisé toutes les pierres précieuses qu'il connaissait à son époque. C'est pour ça qu'on ne parle pas de diamant, parce qu'il semble qu'à l'époque, on ne connaissait pas le diamant dans l'Antiquité. Mais c'est une description magnifique, étincelante. On retrouve toutes ces pierres connues de l'époque. Et bien sûr que ces pierres précieuses, elles font référence au pectoral du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Tout est consacré, splendide, éclatant. On nous dit que dans cette ville, il n'y aura pas de temple. Voilà, pas de temple. Alors je pense que les réformés et les catholiques vont avoir de la peine, parce que certains sont très attachés à leur temple. Il n'y aura pas de temple, ça veut dire qu'il n'y aura plus de rite non plus. Il n'y aura plus besoin, puisqu'on sera dans la présence de Dieu. Dieu sera tout en tous. Le temple, il nous sert à nous rassembler, à nous réunir pour invoquer la présence de Dieu. Là, Dieu sera avec les croyants. Et son temple, c'est l'agneau, c'est le Christ. Il n'y aura ni soleil ni lune. Pourquoi? Parce que les luminaires de notre monde, de notre temps, qui règnent sur le jour et la nuit, aujourd'hui, dans notre création actuelle, il n'y aura plus besoin. Ce sera remplacé par la gloire de Dieu, comme un flambeau. Je me suis demandé, mais où est le Saint-Esprit? Si vous regardez Apocalypse 21, il y a le Père, il y a l'agneau, le Fils, Jésus, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y aura plus besoin de Saint-Esprit parce qu'il ne sera plus nécessaire, puisque Dieu sera immédiatement dans la présence, ou les élus, ceux qui seront là dans ce royaume, seront immédiatement en présence de Dieu. Donc l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, n'aura plus cours. On nous dit que les rois de la terre y apporteront leurs richesses. C'est une image pour dire que voilà, toutes les richesses du monde seront là, se retrouveront là. Et puis il y a une adoration universelle. Ça développe l'idée d'une adoration planétaire. Là, on se dit, c'est un peu bizarre, parce que le temps des nations sera échu, aura fini, puis on nous parle des nations, des rois qui viendront. C'est une façon pour Jean, vous savez, il n'avait pas la même chronologie que nous, donc c'est une façon de dire, mais toute la gloire, toute la richesse de l'ancien monde, ce sera fini, tout sera apporté là. Voilà, ce sera tout pour le Seigneur. Que faut-il comme billet d'entrée pour aller dans cette cité? Une chose, la foi en Jésus-Christ. C'est le sésame, c'est le billet d'entrée. Rien besoin de payer, c'est gratuit, le salut est gratuit, mais il faudra s'être rapproché du Christ. Bon, je speed pour terminer. Alors là, on nous parle d'une ville. Et quand on déborde au chapitre 22, c'est une ville, mais avec un jardin, ou un jardin urbain. Vous pouvez regarder la description du début du chapitre 22. Je disais, il n'y aura plus de steppe, de station d'épuration, parce que tout sera impeccable, quoi. Il n'y aura plus rien d'impur. Il y aura un fleuve de vie qui va passer là. Jean s'est beaucoup inspiré dans sa description d'Ézéchiel 47. Vous pourrez aller voir. On nous dit qu'il y aura un arbre de vie. L'arbre de vie, symbole de salut, de surabondance. Cet arbre qu'on trouve dans Apocalypse 22, c'est l'antithèse de l'arbre de Genèse 2, 17. On nous dit qu'il n'y aura plus de malédiction, plus de nuit. Il n'y aura plus cette question qu'on entend souvent, qu'on nous balance souvent. Mais ton Dieu, il fait quoi? Il est où ton Dieu? Quand on voit ce qu'on voit dans ce monde, quand on voit le mal, ces catastrophes, ces attentats, il est où Dieu? Il n'y aura plus cette question-là. Ils régneront au siècle des siècles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de dominés. Il n'y aura que des gens qui seront dans un statut de... Voilà, un état de régner avec le Christ, d'être bien. Il n'y aura plus de gens qui seront esclaves ou sous les autres. J'allais dire, il manquait presque une chose quand on relit ces versets. Moi, je regardais, je me disais, est-ce qu'il y a des chœurs, est-ce qu'il y a des chants, est-ce qu'il y aura de la louange? Oui, bien sûr. Les 144 000, c'est-à-dire la totalité des rachetés, des sauvés, chante, et vous trouvez ça notamment en Apocalypse 14, verset 3, le Seigneur est l'objet de toutes les louanges dans sa ville. C'est le psaume 48 qui dit cela. Et puis, dans l'Apocalypse, vous trouvez 14 chœurs et chants de louanges qui jalonnent les chapitres de l'Apocalypse. Il y en a 14. On a des paroles, c'est magnifique. Alors, mes amis, dans l'épreuve, ne négligeons pas cette vision du ciel. On arrive à la fin. Je vous fais juste un tout petit résumé. Ouais, ça, on va passer vite. Il y aura des feuilles pour la guérison des nations dans ce jardin, c'est très important. La santé sera garantie, il n'y aura plus d'assurance maladie. Dans la Genèse, vous vous rappelez, la toute première parole des humains, de l'homme, c'est « J'ai eu peur et je me suis caché » quand Dieu appelle dans le jardin. « Où étais-tu, Adam ? J'ai eu peur, je me suis caché. » Ici. Ils n'auront plus peur, ils vont plus se cacher, ils vont voir la face de Dieu. Ils vont s'approcher de Dieu, être avec Dieu. Son nom est sur leur front, le nom du Christ, et non plus le nom de la bête, comme dans les chapitres précédents. Il n'y aura plus de nuit. Voilà. Alors, ça, il vous faut savoir. Dans la Nouvelle Jérusalem, alias dans le royaume, dans la cité de Dieu, quand on sera dans la vie éternelle, tout ça c'est la même chose. Il n'y aura plus de faim, plus de famine, plus de soif, plus de chaleur. Ça ne veut pas dire qu'on aura froid, mais on souffrira plus du chaud, plus de canicule. Il n'y aura plus de tentateurs. Dieu sait si tous les jours on est ciblé par le tentateur. Il n'y aura plus de mer, j'ai dit. Ça veut dire plus de menaces. Vous imaginez pouvoir vous promener, pouvoir évoluer sans aucune menace? Plus de peur, un monde où il n'y a plus de peur. Il n'y aura plus de larmes, de cris, de douleur. Vous n'aurez plus aucune douleur. Il n'y aura plus de mort, de deuil, on n'aura plus besoin de regarder les avis mortuaires. Il n'y aura plus de soleil et de lune, c'est-à-dire ces astres qui éclairaient le jour et la nuit de l'ancien monde. Là, je n'ai pas pu résister, j'ai mis une petite photo fantastique de mon ami Roger. C'est Roger, le numéro un mondial, qui a peur d'une petite qui se fait attaquer par une petite guêpe. Vous la voyez sur les. Je trouvais ça fantastique. Alors, ben voilà, il n'y aura plus d'insécurité. Il n'y aura plus de ces choses qui nous font peur. Plus de nuit, plus de péché, de mal, de fraude. Plus de maladie, plus de malédiction. Plus de lampe et plus de lumière artificielle, puisque c'est le Christ et la lumière de Dieu, la présence de Dieu qui éclairera tout. Dernier slide, mes amis, à vous de choisir. On est dans une société très pessimiste et beaucoup de gens autour de nous sont sinistres. Et ça, ça contamine parfois l'Église. On a de la peine parfois à garder sa joie, la joie du chrétien. Mais l'Apocalypse, sachez-le, nous livre un message positif de la fin de l'histoire. Un message roboratif. Ça fait du bien. Moi, il n'y a pratiquement pas un jour où je ne lis pas l'Apocalypse pour m'encourager, pour nourrir mon espérance. Les dimensions énormes de cette cité, de cette Jérusalem céleste, nous disent que le Seigneur prévoit et prépare des places pour une foule que nul ne peut compter. Et j'espère que nous en serons tous. Que faut-il alors pour être sûr d'y être? Pour être sûr d'y entrer un jour, d'y avoir sa place dans ce nouveau monde, dans ce royaume? Ben, vous avez la réponse en Apocalypse 22, verset 17. Que celui qui a soif, que celle qui a soif vienne. Et veuille boire l'eau vive que je lui offrirai. Avoir soif, venir, vouloir, recevoir. Ça, c'est les quatre termes qui résument toute la grâce. Si vous êtes trop fier pour venir, vous passerez à côté. Si vous n'avez pas soif du salut, d'une autre réalité, vous passerez à côté. Si vous n'avez pas l'humilité de tendre la main pour recevoir ce que le Christ vous offre, vous passerez à côté. Alors voilà, l'homme a beaucoup détruit dans ce monde. C'est un monde sinistre, c'est un monde triste, malgré toutes les beautés de la création. C'est un monde que l'homme détruit à la vitesse grand V. Mais il nous est dit que Dieu a tant aimé ce monde, malgré tout, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, vienne un jour dans cette cité céleste. Et c'est ce qui va nous amener au repas du Seigneur, à la scène. Si quelqu'un entend ma voix, dit Dieu, et m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. C'est la promesse qu'on trouve dans Apocalypse 3 au verset 20. Il y aura un banquet dans le royaume. Il y aura un banquet et la communion que nous allons prendre maintenant, c'est une préfiguration, très simple, très modeste, de ce banquet du royaume où Jésus sera à la même table que nous. Vous rappelez cette parole du Christ quand il a institué la scène? Voici cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume. Moi, je me réjouis. Et j'espère que vous aussi. Et en attendant, eh bien, on va simplement tendre les mains et recevoir sa grâce. En nous réjouissant un jour d'être dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle Jérusalem. Amen.